Alors, on va commencer pile à l'heure. Comme ça, on finira pile à l'heure. Enfin, j'espère. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce film que je pense vous avez tous vu ou presque tous vu. D'abord, bienvenue aux Utopiales. Ça commence maintenant, ça finit dans 5 jours. Je pense que tous ceux qui sont là pendant la semaine vont prendre plein les mirettes. C'est l'objectif. Et on commence donc par cette analyse du film sur Mars, qui, par bien des aspects, est assez fascinant. Enfin, moi, il m'a rappelé quand je l'ai lu, quand je l'ai vu, je l'ai lu parce que ça vient aussi d'un roman d'Andy Weir du même titre. Ça m'a rappelé L'île mystérieuse. Quand j'étais petit, j'ai adoré L'île mystérieuse, parce que c'est les gars. Il n'y a que des gars dans l'histoire, mais enfin bon. Ils arrivent sur une île, et puis juste comme ça, à poil au milieu de rien, s'ils avaient récupéré deux, trois objets qui traînent de l'échouage du bateau, de l'épave du bateau, ben, ils arrivent à reconstruire plein de choses, uniquement par leurs compétences, leurs connaissances, et en bricolant des choses. Et ça m'avait vraiment stupéfait. Donc dans Seul sur Mars, c'est la même chose, ce personnage qui est abandonné sur Mars à lui-même, et qui doit, avec ce qui reste comme objet technique, se débrouiller pour tenir le plus longtemps possible et être sauvé. Alors le film, l'analyse, elle serait très longue à faire. Comme toutes les conférences d'analyse de films que je fais, je pense que je pourrais tenir 4 ou 5 heures sur Seul sur Mars. Là, j'ai qu'une seule heure, donc je ne vais pas raconter tout ce qu'on peut raconter, tous les détails qu'on peut voir, toutes les choses qu'on peut voir, mais on va essayer quand même d'analyser des éléments importants. La tempête initiale, qui est évidemment fondamentale pour la suite du film, qui est l'origine de l'abandon de ce héros, du héros sur le Mars. Et puis, ensuite, le fait qu'il va devoir cultiver des pommes de terre sur Mars, enfin, de quoi manger, mais en l'occurrence des pommes de terre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cultiver des pommes de terre sur Mars? Est-ce qu'on peut faire ça? Et puis, je discuterai un peu du vaisseau Hermès, si on a le temps à la fin, le vaisseau des humains qui les amène sur Mars et puis qui les ramène ensuite, qui est assez rigolo. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire. Marrant, il y a des choses correctes. Dans le film, il y a des choses incorrectes. Mais à la limite, on s'en fiche. Le film est assez intéressant. Moi, j'ai trouvé plutôt plaisant à regarder, assez, assez bien fait. Plutôt plus dynamique, on va dire, que l'œuvre littéraire, qui est très dense techniquement. Pour ceux qui l'ont lu, vous avez vu qu'il y a énormément le gars, le Andy Weir, qui a écrit le bouquin. Manifestement, il s'est très très bien documenté. Et en fait, le roman est encore plus techniquement correct que ne l'est le film. Et donc, on va regarder le film plutôt que les gens ont vu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pas vu quand même dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas vu du tout? J'ai un tout petit extrait. Ah oui, il y en a quand même quelques-uns. Bon, ben ça va, pas beaucoup finalement. Il n'y a pas besoin de connaître tout, je montrerai un peu les étapes. On va commencer directement par un extrait qui dure 2 minutes pour vous montrer, j'essaierai de l'arrêter au bon moment, pour vous montrer ce qu'un scientifique fait dans. Pas au moment où le film est projeté, hein, pas quand je suis dans la salle, quand je regarde le film comme ça, mais ensuite, une fois que j'ai vu le film, je me dis, ah oui, ça c'est bien, ça va faire un bon sujet. Et après, quand je le regarde derrière. Et donc 2 minutes sur la tempête initiale, où il y a beaucoup d'informations qui sont données. Alors voilà la première image de la tempête, et voilà, là c'est parti. Alors faut pas que j'oublie d'arrêter le film aux bons endroits. Alors là, on n'a pas le son. Est-ce qu'on peut avoir le son? On n'a plus le son. Pourquoi on n'a plus le son? On va recommencer. Bon, déjà, remarquez cette tempête qui est ici. Vous voyez les nuages qui sont là. On va les regarder les bien. Ils évoquent quelque chose pour un scientifique, disons, et particulièrement un géologue. Donc la tempête, on la voit ici sur une image. Il y a aussi une image satellitaire, une image locale qui traduit la tempête qui a l'air assez importante. C'est une tempête locale quand même. Ils nous disent dans le film qu'elle fait 1 200 km de diamètre. C'est assez grand, c'est-à-dire c'est un peu plus que local, mais ce n'est pas à l'échelle de Mars entière. Et puis quand ils regardent la tempête, ils disent « Oh là là, le vent, il fait 8 600 newtons ». Ça, c'est ce que dit un des personnages. Ils n'ont pas l'air très contents. On voit qu'il y a du vent qui souffle. Là, les cordes ici, les espèces de lanières bougent. Et puis on apprend que si ce vent dépasse 7 500 newtons, c'est dangereux. Alors pour l'instant, ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour vous. 8 600 newtons, 7 500 newtons, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le newton, c'est une unité de force. Votre poids... Ça ne s'exprime pas normalement en kilogrammes, devrait s'exprimer en newton. Le newton, c'est la force, c'est une unité de force, et votre poids devrait s'exprimer en newton. C'est la force, le poids, c'est la force qui vous tire vers le centre de la Terre. Et si vous faites 100 kilos, vous faites 1000 newtons à peu près. Alors regardez ici, alors on l'a raté, mais on va le revoir. On voit ce personnage qui s'approche de la fusée, et on va voir de la fusée qui leur permet de partir. On va. Voilà, là, on voit pas mal. Regardez la taille du personnage et regardez la hauteur sous la fusée. Ça, c'est un détail qui a l'air de rien. C'est une scène, ça dure une fraction de seconde. Moi, ça va m'intéresser parce qu'à un moment donné, j'aurais besoin d'échelle. J'ai besoin d'avoir des longueurs, des diamètres, des hauteurs. Et donc, le personnage qui est ici, bon, c'est un humain normal, mâle. Il doit faire 1m75, 1m80. Il a son scaphandre, donc un casque qui est un peu au-dessus de la tête. Peut-être le gars l'a fait en tout 2 mètres de haut. Et donc, vous voyez que la hauteur sous les fusées, c'est peut-être 2 mètres 50. Ça, c'est important, l'air de rien, d'avoir l'œil sur ça. Estimer les distances, ça va nous servir tout à l'heure. Donc, on continue. Bon, il récupère l'échelle, il monte, donc lui, il est là pour préparer le décollage. Alors voilà, moi, un truc comme ça, ça m'intéresse beaucoup, hein, parce que là, on voit ça, mais il y a ça qui est intéressant, là. Vous avez vu ça? Tout le monde s'en fout, en général, les nombres qu'il y a à côté, c'est pour faire l'ambiance, hein. Moi, je les regarde. Il y a marqué pression, 12,31 psi, oxygène, 20,69%, température 16 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, vous êtes dans le airlock, là vous êtes dans le sas, il est en train de rentrer dans le sas. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que la pression, 12 psi, alors c'est quoi les psi? Ben, les psi, c'est les pounds per square inch. C'est une unité anglo-saxonne, donc là ils ne s'embêtent pas. C'est un film américain, donc ils ne vont pas s'emmerder, mais des unités système international. Donc plutôt que mettre des pascals, qui seraient une unité de pression, ils mettent des pounds per square inch. Et 12,31 pounds per square inch, c'est la pression atmosphérique habituelle. Là, il fait à peu près ça, 12 psi dans cette pièce à peu près. 20%, c'est la teneur en oxygène de l'air. Là, l'air que vous respirez, il y a à peu près 20% d'oxygène dedans en masse. Et puis 16 degrés, bon, bah, c'est la température à l'intérieur, pourquoi pas. Elle est un peu basse, mais bon, pourquoi pas, c'est une température acceptable. Alors on voit les personnages qui sortent du airlock, qui sont dans le sas. La température, vous voyez, en dessous varie un petit peu. Bon là, hop, ils vident l'air, ça se vide très très vite. Hein. Ils ont des pompes assez efficaces, ils vident l'air. Et pourquoi ils vident l'air? Parce qu'ils vont sur Mars, ils vont à la surface de Mars. Et la pression sur Mars, elle est beaucoup plus faible que la pression terrestre, 160 fois inférieure à la pression terrestre. Donc il faut équilibrer les pressions avant de sortir. On peut pas ouvrir la porte comme vous faites de chez vous. Il faut équilibrer les pressions entre l'intérieur du sas et l'extérieur. Ils sortent. Là, tout de suite, ils sont pris dans la tempête. On va regarder ce qui passe là. Hein. C'est pas des grains de sable, ça, c'est des graviers qui passent. Hein. C'est des gros débris qui passent. Incidemment, c'est assez dangereux d'avoir des gros graviers qui volent comme ça quand on a un casque qui a l'air si fragile. Enfin, c'est probablement un casque un peu résistant, mais le casque devrait être... Alors voilà, moi je regarde ça maintenant. Regardez là maintenant ce qu'il y a écrit là. Là, on est à 0,12 psi, la pression. Elle a été divisée quasiment par 100, même un peu plus que 100. Ça, c'est la pression martienne. C'est tout à fait la pression martienne. Teneur en oxygène, 0,14%. Ça, c'est la teneur en oxygène de l'atmosphère martienne, qui a pratiquement plus d'oxygène. Et température, moins 20 Celsius. Il commence à faire froid, mais ils sont encore dans le sas. C'est l'air froid de Mars qui rentre. La température moyenne de Mars est beaucoup plus basse, plutôt moins 60. Ah voilà le son qui revient. Là, vous voyez les graviers, là, c'est ce qu'ils volent, là, c'est impressionnant. C'est des graviers qui volent. Hein. Il devrait y avoir une abrasion terrible sur le casque, à défaut de les casser. C'est embêtant pour les casques. Grosse abrasion. Ah, le son est revenu. Ah, regardez, là, ça y est bon. On est venu à la température martienne, là. On est dehors. Il fait moins 60, c'est la température moyenne sur Mars. Pression martienne, teneur en oxygène martienne et température martienne moyenne. Et puis, ça, c'est à l'intérieur du scaphandre. Du scaphandre, 4 psi, 21% d'oxygène, 18 Celsius. Alors c'est bien, 18, 19 Celsius dans le scaphandre, les gars sont bien, les filles aussi sont bien. 21% d'oxygène, ça paraît être bien. On se dit 21%, c'est ce qu'on respire là, tout va bien. Regardez la pression, 4,75 psi. Ça c'est normal aussi, c'est un tiers de pression atmosphérique, c'est un tiers de 12 tout à l'heure. Un tiers de 12, c'est normal. Les scaphandres sont gonflés à une pression qui n'est pas la pression atmosphérique. Car s'il l'était, le gars il serait comme ça. Et il pourrait à peine plier, c'est tellement dur, serait gonflé comme un, pas comme un pneu, mais très dur, et il pourrait à peine plier le bras tellement le scaphandre serait gonflé. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils le gonflent à un tiers de pression atmosphérique pour qu'on puisse bouger un peu, qu'on puisse quand même avoir une certaine mobilité, mais si on baisse la pression pour respirer la même quantité d'oxygène à chaque goulée, comme la pression est plus faible, il ne faudrait pas qu'il y ait marqué 20% ici. Il faudrait qu'il y ait marqué 60%. Parce que la pression est trois fois plus faible, il faut une teneur en oxygène trois fois plus importante pour que finalement, à chaque inspiration, on ait la même quantité d'oxygène qui arrive à vos poumons. Et donc là, il y a une petite faute, là, il devrait y avoir marqué 60 ici. Vous voyez, moi je suis un emmerdeur, hein, je regarde vraiment les détails. Hein. Mais vous avez compris, vous me connaissez déjà. Donc, tout va bien. Là, ils sortent, on voit toujours des espèces de gros graviers, là, c'est vraiment impressionnant. C'est pas du tout des petits grains de sable, c'est du gros gravier qui est soulevé par la tempête, il fait très sombre. Ça, c'est normal, hein, finalement, il y a toute cette matière qui est là et qui empêche la lumière du soleil d'arriver, même si on était en plein jour. Il y a des spots lumineux. Commandant, on est à 10 degrés. Le VAM... Alors là, on a vu une image où le VAM était incliné. Donc le VAM, c'est le véhicule ascensionnel martien. C'est pour s'échapper, c'est l'engin qu'ils vont prendre pour partir. Et il est incliné et il ne doit pas s'incliner trop. Et là, Ah bah boum, il prend un truc en pleine tronche. Bon voilà, et là ça commence. Le gars qui a pris l'antenne, il a des problèmes. Il va rester seul sur Mars parce que les autres pensent qu'il est mort et voilà, ils s'en vont. Alors, d'abord une seule image pour vous montrer de quoi, à mon avis, ils sont inspirés pour faire ces nuages martiens, cette espèce de tempête qui vient, ils sont inspirés ça, des nuées ardentes. Ces nuées ardentes, on les voit dans des éruptions volcaniques. C'est des gaz très chauds et des poussières qui dévalent du flanc de la montagne et qui sont extraordinairement dangereux et très rapides. C'est-à-dire, si vous voyez ça, si vous êtes un peu loin, tout va bien, mais si vous êtes à Pompéi, alors et que vous dites « Ah, c'est joli ce truc-là », le temps de compter à 10 ou 15, et boum, les nuées ardentes sont sur vous et vous êtes mort. Donc les nuées ardentes, c'est extrêmement chaud, extrêmement dangereux. Et il vaut mieux éviter ça, mais ça ressemble exactement à la façon que ça a d'avancer. Je n'ai pas trouvé de film de nuées ardentes, c'est exactement celle qu'on voit dans le film. Donc à mon avis, ils sont inspirés des nuées ardentes pour faire ça. Est-ce que le MAV, oui, c'est le VAM, ils disent véhicule ascensionnel martien dans la version française, mais le VAS, c'est le March Ascension Vehicle en anglais. Est-ce que ce truc-là peut basculer sous l'effet d'un vent de, on a dit, 8600 newtons, qui dépasse la limite officielle de 7500 newtons. Donc cette force qui est exercée par le vent sur le VAM. Alors sur cette image, c'est une capture d'écran du film. Sur cette image, on voit le VAM incliné, il y a quelque chose qui mesure l'inclinaison du VAM, et dans le film, ils nous disent le VAM il est incliné à 11,6 degrés. Ça, c'est un peu curieux qu'ils disent ça, parce que quand on regarde ici, il y a des angles à 0, 5, 10, 15, 20, on a l'impression qu'il est plutôt incliné à 5 degrés qu'à 11 degrés, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils disent 11,6, et en même temps, il est incliné qu'à 5 degrés là-dessus. Et puis, vous vous rappelez, on a repéré l'échelle sous les réacteurs, là. On a repéré l'échelle. On avait dit qu'en dessous des réacteurs, c'était à peu près 2,50 m. Et quand on regarde les graduations verticales, on pourrait dire c'est juste pour faire joli. En fait, non, ça donne une échelle dans l'image. Regardez, 1 m, 2 m, 3 m, donc 2,50 m, ça colle pas mal. Donc en fait, là, c'est une graduation par mètre. Alors donc, du coup, c'est super. Pour mesurer la hauteur du VAM, tout est clair maintenant. On peut dire que là-haut, c'est 24,50 m, et donc la hauteur du VAM, c'est quelque chose comme 22 m. On peut estimer son diamètre. Vous allez voir pourquoi c'est utile. Et du coup, la masse de ça, c'est un machin quand même qui va faire des centaines de mètres cubes. Ce truc-là doit peser au bas mot 200 tonnes. Au bas mot, sa masse doit être de 200 tonnes. Et c'est peut-être plus que ça encore. Prenons 200 tonnes pour faire simple. Alors 200 tonnes, ça correspond à combien de newtons ? C'est quoi son poids ? C'est-à-dire, c'est avec quelle force Mars tire cet engin vers son centre ? Eh bien, comme la gravité martienne, c'est à peu près un tiers, un petit peu plus, mais à peu près un tiers de gravité terrestre, ça veut dire que cet objet-là, sur Terre, ce serait 200 tonnes, c'est 200 000 kg, ce serait 200 000 fois 10 newtons, 2 millions de newtons, et sur Mars, c'est 3 fois moins. C'est ça en newtons, c'est beaucoup de centaines de milliers de newtons. Ou à l'inverse, on pourrait dire les 8600 newtons, ça correspond à quoi ? Ça correspond au poids de seulement 2 tonnes, un peu plus de 2 tonnes. La force qui s'exerce sur le VAM par ce vent correspond au poids de 2 tonnes sur Mars. Et le machin fait au moins 200 tonnes. Donc imaginez que vous, qui pesez, mettons, 70 kg, pour certains d'entre vous, pas tous, hein, j'en vois un, il doit peser 70 kg, là. Et on vous pousse avec une force sur le côté 100 fois moindre, genre 700 grammes. Bon, bah, vous sentez qu'on vous pousse, quoi, mais voilà. Tranquille, quoi. Vous n'allez pas être renversé par cette force-là. Sans parler du fait que, regardez un peu l'assise, si vous écartez les jambes pour vous faire tomber, c'est plus difficile que si vous êtes sur une seule jambe, par exemple. Donc cet engin-là, il est disposé de façon très stable sur son support, avec un support très large, et en même temps, il est poussé avec une force qui représente seulement un centième de sa masse, un centième de son poids sur Mars. Donc c'est vraiment une force assez faible. C'est vraiment une force assez faible. Je pense qu'il n'y a aucune chance que le VAM se renverse. D'ailleurs, dans le livre, le problème n'est pas que le VAM se renverse, c'est le problème que le VAM décolle par fort vent. Alors là, c'est embêtant. Un engin qui décolle avec un vent qui le pousse sur le côté, même un petit peu, ben quand même, la trajectoire va être modifiée, déviée, et donc ça peut perturber l'ascension de la fusée et éventuellement son arrivée en orbite. Ce qui fait que quand on envoie des fusées sur Terre, des fusées réelles, évidemment, on se méfie des conditions météo, on se débrouille pour que le vent ne soit pas trop fort, même pour des engins qui pèsent des centaines de tonnes et qui sont poussés par des réacteurs extrêmement puissants. Alors maintenant, quand même, la question qu'on peut se poser, si on dit que 1100 newtons, c'est la force du vent, la force qu'exerce le vent sur le VAM, sur l'ensemble de la structure du VAM, quelle est la vitesse du vent ? Eh bien, on peut le calculer. Alors, comme je sais que vous êtes résistant, j'ai mis une formule, parce que la science, ce n'est pas juste pour rigoler, hein, c'est aussi parce qu'il y a des formules. Alors, cette formule-là, elle vous dit la force, c'est la moitié de la masse volumique de l'air ou de la matière qui vous pousse, mettons de l'air martien en l'occurrence, fois le carré de la vitesse fois la vitesse, fois la surface sur laquelle ça pousse. Si vous êtes tout petit, si vous êtes grand, ben vous n'avez pas la même, comme on dit, prise au vent. Puis multiplié par un coefficient qui s'appelle le Cx, qui dit simplement la facilité que le vent a à être dévié par l'objet. Et Cx, on prend généralement égal à 1 pour ne pas s'embêter. Et quand on met les valeurs, on met la force, on la connaît, il nous dit c'est 8100 newtons. On nous dit la densité atmosphérique martienne, ça on la connaît, on connaît la température moyenne, on connaît la pression de Mars. Je passe les détails, ceux qui savent de la thermodynamique feront le calcul à ma place. On peut déterminer combien pèse l'air martien. Il pèse, par unité de volume, un mètre cube d'air martien pèse à peu près 75 fois moins qu'un mètre cube d'air terrestre. Un mètre cube d'air terrestre, à peu près un kilogramme. La surface du VAM, là, je sais que c'est à peu près 240 mètres carrés, parce que je connais sa hauteur et sa largeur, d'où l'intérêt d'avoir l'échelle tout à l'heure. Et puis, le coefficient aérodynamique, je prends 1, et quand on fait ça, on obtient une vitesse qui est de à peu près 240 km par heure, 67 mètres par seconde. Voilà la vitesse du vent sur Mars, dans un air très ténu, parce que c'est un air qui est dans une atmosphère qui a 160 fois moins de pression que la Terre et 75 fois moins dense que celle de la Terre. Alors les deux questions qui se posent évidemment, c'est est-ce que ce vent martien peut exister ? Après tout, pourquoi pas ? Et est-ce que c'est suffisant pour soulever des poussières ? Même des graviers, des poussières sûrement, mais des graviers. Là, on voit des graviers qui passent dans le film, on voit des gros objets qui passent. Eh bien, on va voir que la réponse est non. Incidemment, comme la pression atmosphérique martienne est 75 fois plus petite que la pression atmosphérique terrestre, la densité atmosphérique martienne est 75 fois plus petite que la densité atmosphérique terrestre, ça veut dire qu'un vent martien, pour qu'il exerce la même force qu'un vent terrestre, il faut qu'il soit à peu près 9 fois plus rapide. En précisément, racine carrée de 75 soit plus rapide. Là, ça vous fait pas rigoler. On était aux Utopiales, c'était cool. Non, non, mais ça rigole pas, la science. Hein. Ça veut dire que c'est des calculs qu'on peut faire. C'est pour vous convaincre que ça se calcule. C'est pas juste je sors de ma poche. Et ceux qui peuvent comprendre les détails supplémentaires pourront refaire les calculs si ça les amuse. Donc ça veut dire que, en fait, ce vent martien de 67 mètres par seconde, il est équivalent, parce que c'est de l'air très peu dense, ou une atmosphère très peu dense, il est équivalent à un vent terrestre qui est pratiquement 9 fois plus lent, ça veut dire 7 mètres par seconde, à une petite brise martienne, à une petite brise terrestre. Une brise terrestre, c'est comme ce vent martien qui est une tempête. Alors évidemment, un vent terrestre à 67 mètres par seconde, vous vous planquez, ça s'appelle une tornade, quoi, et vous rigolez pas du tout. Mais sur Mars, ça vous donnerait l'équivalent, la force qui s'exerce sur vous, l'équivalent d'une brise terrestre. Alors un peu de météo martienne maintenant. D'abord, des grandes tempêtes sur Mars, ça existe. Voilà, sur une image de Mars, on voit ici la position de deux rovers, Opportunity et Curiosity, de deux rovers martiens. Et toute cette zone-là, c'est une tempête martienne. Les zones noires, là, ce n'est pas des trous noirs, c'est des zones où on n'a pas fait de photos. On peut avoir des tempêtes martiennes à l'échelle de 1000 km, comme dit dans le film, sans problème. On peut même avoir des tempêtes globales. Regardez ici, ça c'est Mars, quand tout se passe bien, c'est net, on voit bien tout. On voit ici le mont Olympe. Les trois volcans des monts Tarsis, on voit Valles Marineris, la calotte polaire sud, c'est super. Regardez Mars, un peu plus d'un mois plus tard, là, il y a une tempête globale de sable à l'échelle de Mars entière qui brouille complètement l'image de la surface martienne. Donc Mars, on peut avoir des tempêtes énormes, soulever des vents qui soulèvent de la poussière avec des vents qui sont rapides, mais qui sont dans un air très ténu, qui ne soulèveront que des poussières, les fines poussières de Mars, mais qui peuvent brouiller considérablement l'atmosphère. Et au sol, l'impression que ça donne, voilà, ça sont des images qui ont été prises par Opportunity pendant une tempête dans laquelle elle a été plongée. Ça, c'est avant la tempête, et puis la tempête arrive, et c'est de plus en plus sombre, et c'est comme dans le film, ça c'est très bien fait, parfait. On voit, parce que de la poussière est soulevée, non pas des graviers, parce que de la poussière est soulevée en grande quantité, ça obscurcit considérablement l'air et on se retrouve dans une ambiance très sombre. Et là, c'est ce qu'on observe à partir de Curiosity. Du coup, ça pose des problèmes pour le rover, Opportunity. Ça pose des problèmes pour ce rover Opportunity qui était alimenté par panneaux solaires. Donc ça veut dire que s'il fait plus sombre, il reçoit moins de lumière du soleil et bon, il ne peut plus tellement bouger. Ça met aussi de la poussière sur les panneaux. Ça soulève de la poussière et ça recouvre les panneaux de poussière. Mais à l'inverse, ça peut aussi nettoyer les panneaux. Il y a eu plusieurs situations où les scientifiques étaient très contents parce qu'un vent martien a balayé les panneaux qui étaient couverts de poussière et a redonné un peu d'efficacité électrique à ces panneaux solaires. Voilà encore une autre image d'une tempête martienne. Alors cette fois-ci, ça c'est une tempête à haute latitude, près d'une calotte polaire, et près d'une zone plus chaude et une zone froide ici. Et regardez, on voit cette très belle tempête qui se développe. Et regardez, c'est spectaculaire. Sur Terre, regardez, la même chose, exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, c'est entre chaud et froid. Froid ici, chaud ici, ça c'est le Sahara, c'est la côte d'Afrique. Et regardez une tempête de sable qui va au milieu sur l'Atlantique. On a exactement la même structure. D'accord ? Donc Mars, la météo martienne, par certains aspects, ressemble beaucoup à la météo terrestre. On va y trouver des mêmes phénomènes, mais dans des conditions un peu différentes, à la fois de température et de pression. On peut même regarder, voilà, le développement d'un front de tempête. Voilà, le développement du front de la tempête près de la calotte polaire nord en 99. Et regardez ça, plusieurs images successives, on peut estimer la vitesse du front et donc la vitesse des vents. Et qu'est-ce qu'on trouve ? 45 mètres par seconde. Vous vous rappelez, nous, on a dit 67 mètres par seconde, c'est un peu plus rapide, mais 45 mètres par seconde, ça, c'est une vitesse possible, et 67, c'est possiblement atteint, probablement atteint, on ne l'a jamais constaté. La vitesse la plus importante mesurée au sol, ça a été mesuré par les sondes Vikings, c'est à peu près 30 mètres par seconde. Donc, la vitesse qu'on déduit des 8600 newtons, c'est une vitesse un peu rapide par rapport à ce qu'on a déjà constaté, mais qui n'est pas du tout honteuse. Donc, les 8600 newtons, ils sont plausibles. Par contre, que la fusée risque de se renverser au prétexte qu'il y a ce vent qui souffle sur elle, il n'y a aucune chance. Et que ces gros graviers soient soulevés, il n'y a aucune chance. Aucune chance. Mais ça peut perturber, évidemment, son décollage, sans aucun doute. Et regardez aussi ce qu'on voit. Cette structure-là, là, c'est Ares 4. C'est là quand Watney arrive près de son module de secours. L'autre, il est parti avec les copains. Et lui, il arrive finalement près du module de secours. Regardez ce qu'on voit là. On voit ce qu'on appelle une tornade sur Terre. On appelle ça sur Mars un dust devil, c'est-à-dire un diable de poussière. Là, on a dit que ça faisait 20 mètres. Alors, on prend 20 mètres, on fait 1, 2, 3, 10, à peu près 10. Ça fait 200 mètres de haut, cette chose-là. Est-ce que ça, c'est possible ? Eh bien, c'est assez étonnant, mais la réponse est oui. Voilà une tornade sur Mars. Ça, c'est une petite tornade. C'est le rover Opportunity qui a vu ça. Une petite tornade. Ici, c'est un peu sombre. Mais regardez, il y a une image en mouvement. Regardez ce qu'on voit. Ça se déplace. Il y a des tornades à la surface de Mars. Ça sont des mini-tornades. On peut voir des fois se créer comme ça, spontanément. Et il y a des images encore plus spectaculaires de la surface de Mars, comme celle-ci, où l'on voit le Dust Devil de haut. On voit la trace sombre qu'il laisse sur le sol. Pendant longtemps, on s'est demandé, mais qu'est-ce que c'était, ces traces sombres, bizarres, à la surface de Mars ? Et on a compris, par cette image, que c'était la trace du passage de ces Dust Devil qui, d'une certaine façon, soulève un peu de poussière martienne du sol et font apparaître la partie inférieure du sol qu'on ne voyait pas et qui est légèrement plus sombre. Et regardez, là, on voit l'ombre. Et comme l'échelle est donnée là, l'ombre fait 400 mètres. Et connaissant les conditions de prise de vue, la date et l'heure et la position de prise de vue, on peut en déduire la hauteur du soleil sur Mars. Connaissant la longueur de l'ombre et la hauteur du soleil, on peut déduire la hauteur de la tornade, 200 mètres. Donc la tornade qu'ils ont représentée, cette grande tornade qui fait presque 200 mètres dans le film, parfait, ça marche très bien. Donc ils ont fait des choses très bien. Puis après, il y a des choses un peu plus curieuses. C'est l'intensité de la tornade, la représentation de la tornade est pas mal. Mais son intensité qui soulève des grains, et puis qui empêche ou qui risque de renverser la fusée, ça non. Mais en revanche, le reste, visuellement, c'est très réussi. Alors le problème de Watney, c'est qu'il est seul sur Mars et qu'il a besoin de manger pendant longtemps. Il a évidemment toutes les rations alimentaires qui ont été laissées par ses collègues. Ça lui donne de quoi manger. Il est tout seul d'être 6, donc ça lui donne de quoi manger. Simplement, il faut tenir 500 jours parce que ses copains sont partis et le temps qu'on lui renvoie une mission, ben, ça va prendre du temps. Et il n'a pas assez de nourriture, donc il se dit, je vais cultiver des pommes de terre. Il récupère des pommes de terre, il les plante dans la terre et ça partit. Sauf que ce n'est pas si simple, parce qu'il faut de la terre et il faut de l'eau. Sur Mars, de l'eau, on va voir s'il y en a, et de la terre, il y en a, il y a du sol, mais ce n'est pas de la terre, ce n'est pas un sol comme le sol terrestre. En tout cas, voilà ce qu'il nous dit. Il a réussi à créer 126 mètres carrés de terre utilisable, et chaque mètre cube nécessite 40 litres d'eau pour être cultivé. Alors, évidemment, les 126 mètres carrés, ce n'est pas des mètres cubes, donc il faut connaître l'épaisseur de terre dont il a besoin. C'est embêtant, il ne le dit pas. Bon, là, il a bien buté ses patates, c'est plutôt pas mal. Il doit y avoir peut-être 20 cm de terre par endroit, une moyenne, mettons, de 20 cm sur l'échelle de tout ça. Donc 20 cm fois 126 mètres carrés, ça fait genre 40 quelque chose, 35, 30 mètres cubes, on va dire, un petit 30 mètres cubes. Et il lui faut 40 litres d'eau pour 30 mètres cubes, pour 25, donc il lui faut entre 800 et 1200 litres d'eau. Voilà, il lui faut en gros un mètre cube d'eau. Voilà, il faut un mètre cube d'eau, c'est pas mal, il ne les a pas. Comment il fait ? Alors d'abord, envisageons la question du sol. Voilà une carte altimétrique de Mars, c'est-à-dire avec les altitudes de Mars, en bleu quand c'est creux, en rouge quand c'est haut, en rouge quand c'est haut. D'accord ? Et même en gris quand c'est très haut, là, les volcans, Olympus Mons, les trois volcans Tarsis, et puis Valles Marineris. Lui, où est-ce qu'il s'est posé? On le sait, c'est dit dans le film. Hein, moi, je ne l'invente pas. C'est dit dans le film, il donne la position. Arès 3, il est posé là. Il est posé dans un endroit qui s'appelle Acidalia Planitia. Comme on en a dit, qu'une plaine qui est très basse. Hein, c'est un truc qui est une grande zone, là, cette grande zone nord, là, qui est très basse par rapport au niveau moyen martien. On peut même, de cette zone-là, chercher dans les images qui ont été faites par les satellites en orbite autour de Mars pour avoir une idée de comment ça se présente. On peut trouver là-dessus, je n'ai pas fait l'effort, mais là-dessus, on pourrait dire, ah ben tiens, Arès 3, il est posé là. Là, c'est une zone autour d'Arès 3. C'est plat, et puis il y a quelques cratères, hein, mais sinon, c'est une plaine. Vraiment, c'est une plaine. Alors, Arès 4 est là. Ça, c'est l'endroit où il doit aller chercher le vaisseau de secours. Vous remarquez que c'est quand même pas malin de le mettre super loin. Enfin bon, il est là. On sait qu'il va près de Pathfinder, vous récupérez, il récupère le petit rover pour faire sa communication. Il y a plein de trucs à dire cet épisode-là, mais je ne dirai rien. Pathfinder, donc il est là, il doit aller là, il revient et il va là. Donc le gars, il bosse. Hein. Là, les kilomètres, c'est 1000 kilomètres qu'il fait. L'ordre de grandeur, c'est 1000 kilomètres. Et puis, je rajoute ici Viking 1, parce que quand même, c'est les 40 ans. Enfin, c'était l'année dernière. Cette année, les 40 ans de Viking 1, de la sonde Viking 1 qui s'est posée sur Mars, ici dans Crisse et Planitia, donc un peu à côté. Et les informations qu'on peut avoir, Acidalia Planitia et Arès 3, ils sont à peu près à un niveau moyen qui est moins 4000 mètres. Et Schiaparelli, qui est la région, le cratère où est posé Arès 3 dans le film, c'est à peu près à zéro. Donc il a quand même un bon 4000 mètres, pas loin de 4000 mètres de dénivelé à franchir. C'est un vrai boulot. Non seulement c'est loin, mais en plus c'est haut. Et cet endroit qui est ici, en bleu, qui est la zone profonde, on pense que c'est l'endroit où était le paléo-océan martien. Il y a une époque, il y a eu de l'eau liquide sur Mars, on en a de multiples preuves, de l'eau liquide en quantité, et cet endroit, très bas, est probablement l'endroit où se trouvait l'océan martien qui prévalait à cette époque, avant son évaporation, suite à la perte de l'atmosphère martienne. La pression a baissé, l'eau a commencé à s'évaporer en quantité, et puis finalement, Mars, c'est sec. Enfin, en tout cas, en surface, maintenant, il n'y a plus d'eau liquide à la surface. Il y en a eu, il y en a de multiples preuves, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y en a de multiples preuves. Par exemple, ça, voilà, ce truc-là, voilà, c'est de l'eau qui a coulé ici. Et là, il devait y avoir un océan d'assez grande taille. Donc, il est posé au fond d'un ancien océan martien. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà où est Arès 4. Et le sol martien, ça ne s'appelle pas un sol. Ça s'appelle du régolithe. C'est du caillou. Et un sol terrestre, pour les biologistes, c'est beaucoup plus que du caillou. C'est quelque chose, il y a une vie microbienne, c'est quelque chose qui n'est pas seulement du caillou, c'est de la terre, c'est des déchets organiques avec une vie microbienne, avec une vie même plus grosse que microbienne éventuellement, mais au moins une vie, de la matière organique, une vie microscopique. Donc ce qu'on a sur Mars, ce n'est pas un sol, ce n'est pas vivant d'une certaine façon. Pour que ça soit vivant, il faut rajouter de la matière vivante. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous vous rappelez, c'est l'épisode particulièrement odorant, il récupère tous les résidus de toilette de ses copains qui sont partis, et puis lui-même, il va continuer à en produire un peu. Donc, tous ces déchets-là, il va les mettre dans son sol et il va, avec toute la flore microbienne qui est dans les déchets humains, eh bien, il va nourrir son sol, enfin, le rendre, entre guillemets, vivant. Ça n'a peut-être pas suffisant, on pourrait discuter si c'est suffisant, mais en tout cas, il va créer quelque chose où il y aura une activité microbienne qui est indispensable pour que ça soit un sol et pour que ce soit cultivable. Mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il va récupérer? Il récupère le sol de là où il est, évidemment. Il ne va pas faire 10 000 km, il en fait déjà assez. Il ne va pas récupérer un sol qui est ailleurs. Il va récupérer le sol de là où il est. Et on rappelle, il est au fond d'un océan. Et alors, qu'est-ce qu'on regarde dans la région d'Arès 3? Ça, c'est une vue prise par satellite qui montre... Alors, ici, il y a Viking 1. Ici, il y a Pathfinder. La région où s'est posé Arès 3, c'est par ici. Et cette carte-là, elle montre une cartographie vue d'espace de potassium 40. Vous allez me dire, putain, ça commence à devenir technique. Pourquoi le potassium 40? Parce que c'est un élément qui se désintègre. Il se désintègre en émettant de la lumière de haute énergie, qu'on appelle de la lumière gamma, qu'on peut observer depuis le ciel, et ça nous donne une idée de la composition en potassium 40 de ces zones-là. Et ce qui est intéressant, là, l'échelle est donnée ici, plus c'est rouge, plus il y en a, plus c'est bleu, moins il y en a. Et on trouve qu'il y a une très bonne corrélation entre le potassium et la basse altitude. Quand c'est bas en altitude, il y a beaucoup de potassium sur Mars. Quand c'est haut en altitude, il n'y a pas beaucoup de potassium. Ah bon? Eh bien, c'est curieux, ça, mais en fait, c'est logique. Si vous imaginez que les zones basses ont été envahies par un océan, cet océan, en s'évaporant, a laissé ce qu'on appelle ses sels, dont des sels de potassium et des sels de sodium, mais le potassium est plus facile à détecter. Et là où il y a du potassium, c'est qu'il y a eu de l'eau océanique, salée, comme nos océans, qui s'est évaporée. Et c'est comme ça qu'on comprend que cette zone ici a dû être c'est la zone d'Acidalia Planitae, a dû être le lieu d'un ancien océan qui s'est évaporé. Et lui, il est en plein là, dans la zone où il y a beaucoup de potassium. Alors pourquoi c'est gênant ? Ben c'est gênant parce que sur Terre, quand il y a du potassium, il y a du sodium. Et on trouve que sur Terre, les sédiments marins, quand vous prenez de l'eau de mer ou des sédiments marins, vous enlevez l'eau, vous regardez ce qui reste, il y a 20 fois plus de sodium, de sel de consommation courante, que de potassium. Et comme la teneur ici, c'est marqué sur l'échelle invisible pour vous, il y a 0,5% en masse, s'il y a 20 fois plus aussi sur Mars, si on dit que cette proportion 20 pour 1 est conservée sur Mars, ça veut dire que le sol qu'il est en train de ramasser contient en masse à peu près 10% de sel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font des jardins potagers dans le coin, là, mais si vous foutez 10% de sel, c'est-à-dire 100 grammes de sel par kilo de terre, ça ne va pas être facile de faire pousser vos plantes, je peux vous dire, quoi. Donc le gars, il part d'un sol, même enrichi par ses excréments et ceux de ses copains, ça ne va pas être facile de le faire pousser quelque chose, parce que c'est très salé. Il faudra d'abord qu'il fasse un pré-traitement de sa terre pour enlever le sel. Il y a bien sûr des prés salés, il y a des plantes comme les palétuviers qui poussent dans des régions avec l'eau de mer, mais c'est des plantes très spécifiques. Ce n'est pas des patates. C'est des plantes qui sont adaptées à pousser dans une eau salée, dans une région un peu salée. Donc là, on va dire qu'il est quand même embêté avec son sol, hein, même s'il met ses excréments pour enrichir un peu la chose. Ça ne va pas être facile pour lui. Et puis son deuxième problème, c'est de l'eau. Il a besoin de faire de l'eau. Alors comment il fait de l'eau ? Ben, par la relation, la fameuse... On fait de la chimie maintenant. Attention, c'est parti pour la chimie. Là. Donc il y aura de la chimie. On rigole pas. Hein. C'est l'utopial, c'est du sérieux ici. Donc de l'hydrogène et de l'oxygène, ça fait de l'eau. Il suffit de le faire réagir, c'est très facile. L'hydrogène, il faut qu'il le trouve quelque part. L'oxygène, il en a dans son habitat. Enfin, vous notez qu'il en a dans son habitat, mais il est produit quelque part, parce que sur Mars, il n'y en a pas beaucoup. 95% de l'atmosphère martienne, c'est du gaz carbonique. Et 0,14% seulement du dioxygène. Donc, il faut qu'il trouve du dioxygène et du dihydrogène. Alors, faut faire attention quand même à ce mélange-là. Quand on le fait, voilà un mélange dioxygène-dihydrogène. C'est le Hindenburg, un zeppelin donc, qui faisait la liaison Berlin-New York, et il arrive près de son port d'attache. Il était gonflé, c'est un ballon qui était gonflé 350 mètres de long, il faut imaginer ça, c'est des trucs de fou. La liaison transatlantique Berlin-New York en zeppelin, ça existait dans les années 35, hein, donc c'est assez, quand on imagine ça, stupéfiant. Il s'approche, il y a un arc électrique qui se fait entre le port, l'endroit où il doit s'accrocher, et puis le ballon, il est gonflé à l'hydrogène, qui est un gaz très peu dense, et qui permet au ballon de flotter dans l'air. Maintenant, on utilise plutôt de l'hélium, qui est quand même beaucoup moins dangereux, qui n'est surtout pas inflammable. Et puis, ça brûle le zeppelin, il tombe, il y a une trentaine de morts, et c'est la fin du zeppelin. Plus personne n'utilise les zeppelins après ça. Donc ça, ce n'est pas une réaction qu'on peut faire. D'ailleurs, dans le film, vous vous rappelez, quand il fait son petit mélange, à un moment donné, ça lui pète à la figure. Hein. Bah, c'est ça. Version petite, mais suffisamment importante pour que, finalement, il ait des dégâts. Il y survit, heureusement pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il utilise, pour faire du dihydrogène, il utilise de l'hydrazine et il a des petits cailloux dans le film qui sont des grains d'iridium. Il les fait tomber sur de l'iridium. Et pourquoi il utilise ça ? Parce que le MAV, le véhicule ascensionnel, il est propulsé à l'hydrazine. Il récupère un stock d'hydrazine qui est resté, il le fait tomber sur ce catalyseur à l'iridium et spontanément, cette hydrazine se décompose en azote, en diazote et en dihydrogène. Et le dihydrogène qui est produit, avec une petite flamme, il le fait réagir avec l'oxygène de l'air qui est dans son habitat. Et s'il ne fait pas ça bien, ça lui pète à la figure. S'il fait ça bien, c'est cool, ça fait de l'eau, de la vapeur d'eau qui va se condenser sur les voiles en plastique. Alors pour dire qu'il y a vraiment de l'hydrazine, regardez. Sur cette image, il y a marqué hydrazine. Alors non, il faut regarder bien le film. Moi, je suis un dingue, hein, je le regarde en détail. Hein. Hydrazine, c'est marqué là. Donc ça marche vraiment l'hydrazine, d'accord ? S'ils avaient raison, ils ont dit c'est bon. Sauf que dans les vraies missions martiennes, le véhicule ascensionnel martien qui est prévu, il n'est pas censé fonctionner l'hydrazine, il est censé arriver avant les humains et sur place, une petite usine va synthétiser le carburant qui lui permettra de repartir, qui ne sera pas d'hydrazine, qui sera plutôt du méthane, on va y revenir dans un instant. Donc ça n'aurait pas dû être de l'hydrazine, mais pourquoi pas de l'hydrazine ? Incidemment, l'hydrazine, on s'en sert en propulsion pour les fusées, hein. C'est ce qu'on utilise pour faire des petites poussées contrôlées, par exemple, c'est de l'hydrazine. On fait goûter de l'hydrazine sur un catalyseur d'iridium. Ça produit un gaz qui, du coup, le liquide devient gazeux. Il y a une détente et ça fait une petite propulsion qu'on peut parfaitement contrôler et qui est bien pratique. Petite poussée, mais contrôlable parfaitement. Par exemple, Schiaparelli, qui a un peu raté son atterrissage, son amarcissage récemment, Schiaparelli, c'est petit rétrofusée, elle fonctionnait à l'hydrazine, hein, pour contrôler sa descente. Bon, ça a fonctionné que 5 secondes au lieu de 30 secondes, donc évidemment, ça pose des problèmes. Alors, là, on sait comment il fait du dihydrogène. Il prend l'hydrazine, il met sur l'iridium. Il fait en gros ce que fait le MAV. Il récupère des outils du MAV. Il a besoin d'oxygène. Il en a dans son habitat, mais s'il le consomme, il ne va plus respirer. Donc il faut qu'il puisse aussi produire son dioxygène. Alors comment est-ce qu'il fait ça? Et voilà, comme ça. Ça s'appelle la réaction de Sabatier. À Toulouse, pour les Toulousains, s'il y en a dans la salle, l'université Paul Sabatier, c'est ça. C'est ce prix Nobel de chimie qui a trouvé cette réaction du gaz carbonique avec du dihydrogène, ça fait du méthane et de l'eau. Vous allez me dire, mais il n'y a pas d'oxygène là-dedans. Oui, mais quand il y a de l'eau, si vous faites de l'électrolyse de l'eau, vous récupérez du dioxygène et du dihydrogène. Alors comment ça se passe en pratique? Ça, c'est l'atmosphère de Mars. Si vous êtes dans la Station Spatiale Internationale, cette réaction est utilisée, c'est la respiration. Les gars qui sont dedans, ils respirent et ils produisent du gaz carbonique. Et ce gaz carbonique, il vous embête. Vous voulez vous en débarrasser, mais pas le jeter bêtement, vous voulez le recycler. Eh bien, vous allez faire cette réaction-là avec un peu d'hydrogène. Alors, si vous êtes sur Mars, vous en amenez un petit peu sur Terre, vous allez voir pourquoi un petit peu. Pas besoin d'amener tout ce dont vous avez besoin, un petit peu suffit. Vous produisez du méthane. Alors, si vous êtes sur Mars, c'est le carburant pour le retour. C'est ce qu'on espère pouvoir faire si on fait un jour des missions habitées vers Mars. Si vous êtes dans la station spatiale, vous récupérez le méthane et vous le jetez. Vous le stockez, vous le jetez. De l'eau. Et en électrolysant l'eau, vous donnez du dioxygène. Vous respirez, vous êtes content. Et du dihydrogène. Alors là, c'est super cool. Le dihydrogène, vous le remettez dans le machin. Alors, vous en avez quand même moins qu'au début. Hein. Donc, il faudra qu'il faut arriver avec un petit bac chiche initial pour que ça se reboucle et que vous perdiez pas vos ressources quand même. Et puis, le dioxygène, vous le respirez. C'est super. Ou vous vous en servez comme comburant avec le CH4, si vous êtes sur Mars pour faire le retour. Vous avez du dioxygène et du méthane, et les deux à la fois, ça fait une belle flamme, une belle poussée, vous démarrez. Et vous le respirez, ça produit du CO2 que vous remettez dans la machine et c'est reparti. Donc vous avez un joli cycle qui n'est pas complètement fermé, il faut arriver avec un petit quelque chose qui n'est pas complètement 100% recyclé, si je veux dire, mais qui est très efficace et très utile. Et donc là, c'est ce qu'il a dû faire, c'est ce qui se passe hein, probablement sur Mars hein, pour produire du dioxygène, pour produire de l'eau. Si on veut produire de l'eau, voilà comment on fait. Avec du CO2. Mais l'eau, on s'en sert en fait pour faire du dioxygène. Alors, dans l'ISS, on l'utilise pour recycler cette réaction-là, pour recycler le CO2. L'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale pour recycler le CO2 respiré. Et puis, je le dis quand même, en Allemagne, le parc énergétique de Morbar, ben, qu'est-ce qu'il a? Ils ont des éoliennes. Ils ont des éoliennes et, ou des cellules photovoltaïques. Et l'électricité inutilisée, ils s'en servent pour électrolyser de l'eau. Et de l'eau, mais là, sur Terre, c'est facile, de l'eau, on se baisse pour la ramasser, en gros. Et cette eau électrolysée, elle produit de l'hydrogène qui, avec le CO2, va donner du méthane. On va stocker l'électricité sous forme de méthane. Et ce méthane-là, après, on en fait une combustion avec une flamme et le dioxygène de l'air, et c'est reparti, mon kiki, on récupère de l'énergie qu'on a stockée, de l'énergie électrique qu'on a stockée sous forme d'énergie chimique, de méthane, et qu'on récupère en faisant une combustion. Ça, ce serait une façon de stocker l'électricité. C'est une des façons de stocker l'électricité. Alors, est-ce qu'on peut quand même trouver encore de l'eau sur Mars? Après tout, le gars, il s'embête à faire de l'eau, mais peut-être qu'il aurait qu'à se baisser pour la ramasser. Enfin, en tout cas, faire un autre effort. Se baisser pour la ramasser, quand même pas. Il n'y a pas de l'eau qui coule sur Mars. Il n'y a pas des fleuves, des lacs, des rivières sur Mars. Alors là, c'est une photo de la calotte polaire nord. 1000 km de diamètre, 3 mètres d'épaisseur pendant l'hiver, il y a de l'eau. 3 mètres d'épaisseur de glace d'eau. La calotte polaire sud, c'est plutôt de la glace carbonique, de gaz carbonique. Donc, il faudrait plutôt aller sur la calotte polaire nord. Ça tombe bien, il est dans l'hémisphère nord, mais la calotte polaire nord, elle attaque au-delà de 80 degrés de latitude, alors que lui, Watney, il est à 30 degrés de latitude. Donc, vous voyez, il y a un énorme effort pour aller chercher de l'eau. Et là, il a qu'à se baisser, il prend d'énormes blocs de glace, c'est de l'eau, il a fait fondre et c'est tranquille pour lui. Bon, il faut y aller, il a des milliers de kilomètres à faire, il n'a peut-être pas envie de s'en payer encore. Donc, on peut trouver de l'eau sur Mars, dans les calottes polaires, en tout cas, la calotte polaire nord, c'est pas facile pour lui. Deuxième solution, voilà une image avant-après. Ça, c'est le sol la journée, le même sol. Alors, il y a une croix bleue là qui indique le même caillou. Donc, la vue, l'angle n'est pas tout à fait le même. Ça, c'est pris par les sondes vikings où on a commencé à voir qu'il y avait du givre le matin à la surface de Mars. Sur les cailloux, il y a du givre d'eau. Et donc, il y a du givre et ensuite qui se sublime. Comme la pression est très faible, l'eau, elle ne fond pas, elle ne devient pas liquide. Elle est glace et elle devient gaz directement. Et quand elle est gaz, elle devient solide directement, sans passer par l'état liquide. Donc là, on a du givre. Est-ce qu'on peut récupérer ce givre ? Eh bien sûr, vous tendez un grand drap. Alors j'ai fait le calcul pour vous. Vous tendrez un grand drap, mettons, de 400 mètres carrés. Ça commence à faire un beau drap. Vous laissez la nuit, il fait froid. Il y a du givre qui va se déposer sur le drap. Combien de givre ? Alors moi, j'estime, en étant un peu généreux, 5 micromètres, 5 millionièmes de mètres d'épaisseur de givre sur 400 mètres carrés. Alors j'ai pas mis ça, on attend que le givre se dépose. 5 micromètres d'épaisseur sur 400 mètres carrés, ça fait 2 litres d'eau. Bon, c'est pas terrible. Hein. Bon, c'est-à-dire que vous récupérez le drap, vous essorez le givre, vous le faites fondre, et hop, vous avez 2 litres d'eau. Vous avez fait zéro effort. Hein. Vous avez juste tendu le drap et récupéré l'eau. Alors, on pourrait avoir un système un peu plus habile qu'un bête drap. Enfin, on pourrait être un peu optimisé, mais l'idée, elle est là. Vous pouvez récupérer éventuellement pour 400 mètres carrés, mais il n'y a qu'à mettre 1000, 10 000, 100 000 mètres carrés. Mais après, ça devient emmerdant à attendre. Enfin, c'est compliqué. Et puis, il bricole, le gars. Donc, bon. Donc, c'est pas facile pour lui. Mais on peut espérer récupérer de l'ordre du litre chaque nuit. C'est pas terrible. C'est bien pour boire un coup dans la journée, mais c'est pas terrible. L'autre solution, c'est de récupérer de l'eau directement sous forme de glace. Est-ce que vous voyez les trois erreurs entre ces deux images ? Il y a trois différences entre ces deux images. Vous les voyez ou pas ? Regardez là. C'est pas super clair. Hein. Alors pour vous, j'ai agrandi un peu. Regardez là. 1, 2, 3. Il y a trois glaçons sous le sol. Ça, c'est la sonde Phoenix qui s'est posée à 68 degrés de latitude nord. Donc vous voyez, c'est déjà 68, hein, c'est pas 30 où il est Watney. Il a raclé un peu le sol. Il y a trois glaçons qui sont là, et après, ils ne sont plus là. Ah oui, évidemment. Ils étaient dans le sol, tout va bien, mis en contact avec l'atmosphère, à pression quasiment nulle, très faible, ben, ils se sont sublimés. Le glaçon a disparu en 4 jours à peu près. Il a suffi de 4 jours pour que ces glaçons disparaissent. Donc, en creusant le sol, on peut trouver des bouts de glace. Alors, pourquoi il ne fait pas ça à Watney ? Il pourrait faire ça. On va même raffiner un peu plus le truc. Mais quand on analyse cette glace, c'est bien de la glace d'eau, ça pourrait être de la glace carbonique, de la glace de CO2 plutôt que de la glace de H2O. Quand on analyse, elle a un pH assez basique, donc si vous la buvez, ça ne va pas être bien tout de suite, ça a de drôles de goût. Elle contient plein d'ions qui ne sont pas gênants, hein, du magnésium, du potassium, du sodium, des ions chlorure. Ah, ça, c'est plus emmerdant, ça. Des ions perchlorate, ça, c'est plus embêtant. Les ions perchlorate, hein, le perchlorate d'ammonium, ça sert dans les propulsions de roquettes, par exemple. Perchlorate d'ammonium. Là, c'est du perchlorate. Donc, on n'a pas envie de boire ça comme ça. Avec ça, on peut faire de l'eau de Javel, par exemple, aussi, hein, ce qui est autre chose. Mais bon, bref, ce n'est pas un truc qu'on a envie de boire. Donc, cette eau que vous récupérez sous forme de glace, vous pouvez la faire fondre, mais pas l'utiliser directement pour vos plantations pour la boire. Il faudrait la distiller, la chauffer, l'évaporer, récupérer le distillat, et puis c'est bon. On pourrait faire ça. Donc, ça serait pas mal. L'autre solution, c'est récupérer de l'eau des roches. Ça paraît incroyable, quand on prend un bout de caillou, on se dit « il y a de l'eau là-dedans ». Eh bien, ouais, il y a de l'eau là-dedans. Et notamment dans trois types de roches, des silicates, argiles et serpentines, et les sulfates. Et on en trouve sur Mars. On en trouve sur Mars. Alors ça, je renverrai à mon collègue Pierre Thomas, géologue à l'ENS Lyon, qui m'a rencardé sur la géologie, parce que moi, je ne suis pas géologue. Mais il m'a montré des photos, là, je n'ai pas le temps de vous montrer tout ça. Il y a des photos spectaculaires, on voit des filons de gypse sur Mars. C'est incroyable, avec à côté la même photo sur Terre, quoi, l'équivalent martien de ce qu'on voit sur Terre. Et quand on fait chauffer du gypse, alors c'est lui qui a fait cette petite manip géniale, un peu de gypse chauffé dans un tube à essai, c'est aussi bête que ça. Chauffer du gypse à 120 degrés, regardez ce qui se passe. Regardez bien le bord ici du tube à essai. C'est un truc qui est sec quand vous le touchez, mais quand vous le chauffez, regardez, il y a un dépôt de vapeur d'eau. Il y a un dépôt de vapeur d'eau. Si vous prenez du gypse et que vous le chauffez à 120 degrés, vous récupérez de la vapeur d'eau. Ce sont des roches avec de l'eau dedans, dans le réseau cristallin, et qu'on peut libérer en chauffant. Les sulfates, c'est un peu plus embêtant, il faut chauffer plutôt à 800 degrés. Là, il faut commencer à avoir un vrai four un peu technique. 120 degrés, c'est jouable pour Watney. Et quand on fait ça, 1 kg de gypse produit 200 g d'eau. Ah, c'est impressionnant. Si vous tombez sur quelques tonnes de gypse, et que vous les faites chauffer ces quelques tonnes, alors ça nécessite de l'énergie, hein, ce n'est pas gratuit. Mais si vous faites ça, vous allez récupérer vraiment une quantité d'eau appréciable. Alors on peut même faire mieux, parce qu'on dit qu'il faudrait chercher du gypse, alors il faut être géologue, ah oui, il y a un filon, bref, il ne sait pas où il y en a à Watney, puis il n'est pas géologue, il est plutôt biologiste, il est plutôt botaniste. Alors, voilà une carte de la surface de Mars, sauf les pôles, qui vous montre les proportions d'eau dans le premier mètre de Mars, de couche martienne. analysé depuis la surface, depuis l'orbite, excusez-moi. Le bleu, c'est 2%, le bleu sombre noir, c'est 2%, le rouge sombre, c'est 18% d'eau. Ça, c'est dans le premier mètre de la surface de Mars, la quantité d'eau. Je rappelle où est Arès 3, il est là. Arès 3 est là, il est dans le bleu. Donc il est, soyons généreux, il est à 4%. Le seul martien autour de lui, gypse, tout ce qu'il y a dedans, il y a 4% d'eau en gros, en moyenne, entre la glace, le gypse, les sulfates, et puis d'autres roches peut-être qui ont un peu d'eau dedans, piégées dans le réseau cristallin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend 1 mètre cube de sol, 1 mètre carré de sol sur 1 mètre d'épaisseur, il prend 1 mètre cube de sol, ça va faire environ 2 tonnes. La masse volumique du caillou, c'est 2 grammes par centimètre cube, 2 tonnes par mètre cube. S'il y a 4% d'eau là-dedans, ça lui fait récupérer 80 litres d'eau. Chaque mètre cube de roche qui se fait chauffer, ça lui permet de récupérer à peu près 80 litres d'eau. Alors, si c'est de la glace, il suffit de chauffer un peu. Si c'est des gypses, si c'est des sulfates, il faut chauffer un peu plus. Puis dans les silicates, ah, j'ai mis un point d'interrogation, je n'ai pas l'intérêt, il faut chauffer à 800 degrés. Mais il peut, s'il récupère beaucoup de terre et qu'il chauffe, il faut encore avoir cette source d'énergie, ce qui n'est pas gagné, il peut récupérer quand même pas mal d'eau. Pour ces, il a besoin de 1000 litres d'eau environ, eh bien, il lui faut quelque chose comme une douzaine de mètres cubes de cailloux martiens. Il ramasse 12 mètres cubes, c'est un effort. Il le met dans un système qui fait chauffer ça, qui évapore l'eau, il récupère l'eau, il la condense et il est content avec ça. Donc c'est jouable aussi comme ça. Mais ce n'est pas facile, évidemment. Mais sur notre truc, ce n'était pas facile non plus. Alors, autre chose, on va parler un peu des paysages martiens maintenant. On revoit sur cette carte-là le chemin qu'il a fait d'Arès 3, qui est ici. Il a été jusqu'à Pathfinder et puis il a descendu jusqu'à Schiaparelli, un énorme effort. Et voilà ce qu'on voit comme image initialement. Ça, c'est les images, c'est les deux premières minutes du film. On voit ça, il nous indique Acidalia Planitia, c'est là où il est. Alors, deux remarques. Remarque de géologue. Donc moi, je ne peux pas le faire comme ça. Et mon copain géologue, lui, il voit ça, il dit, quand il voit ça, pour lui, c'est évident que c'est une région qui est faite avec du grès, des falaises de grès. Et quand il voit ça, Pierre Thomas, il me dit, bah, un endroit évident qui est comme ça, c'est l'Arizona ou la Jordanie. Et on regarde où le film a été tourné, en Jordanie. Donc lui, il regarde, il voit tout de suite qu'on n'est pas sur Mars, à l'œil direct. Et quand on regarde ça, alors là, moi, je suis quand même malin, parce que ça s'appelle Acidalia Planitia. Ça veut dire plat. C'est pas plat, tout ça. Ils ont bricolé un peu, regardez ici, là. Ils ont rajouté un gros cratère dans un paysage terrestre. Ils ont filmé un paysage terrestre et ils ont rajouté un cratère pour faire martien, quoi. Donc, évidemment, ils ont marcisé la planète pour, en mettant des cratères dans des paysages terrestres. D'accord ? Donc là, il y a un gros cratère ici qui n'est pas, qu'on ne trouve pas l'équivalent. Il y a des cratères comme ça sur Terre, mais pas dans ces paysages-là. Alors, regardez ces deux images, paysage du film, paysage réel dans le Wadi Rum en Jordanie. C'est là où ils ont tourné. D'accord ? Des falaises de grès. Donc on voit bien d'où vient le film. Ils ont mis un peu de rouge et tout ça pour faire genre, mais ils ont tourné sur Terre, évidemment. Ils n'ont pas été sur Mars. Alors en même temps, le grès sur Mars, il n'y en a pas. Pas beaucoup. Il devait y en avoir un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt sulfate, qu'on a dit tout à l'heure, sulfate, silicate. Sur cette image, les roches martiennes, c'est plutôt des roches volcaniques, en fait. Les roches de surface martienne, ça ressemble plutôt aux roches volcaniques. Et sur cette image, quand on est un géologue, donc pas moi, mais quand je l'ai montré à Pierre Thomas, j'ai dit, c'est quoi ? Sur cette image, il y a une astuce qui dit que c'est volcanique. Moi, je l'ai montré à Pierre Thomas parce que sur cette image ici, ça, moi, j'ai reconnu ça quand même comme une carte géologique. Et j'ai montré ça à un vrai géologue, et pour lui, c'est évident, ceci est une carte géologique de région volcanique. Il y a des coulées. Cette zone-là, c'est une carte géologique. Là, il y a des coulées. Ça représente pour lui. Il dit, pour moi, c'est évident. C'est des coulées de lave. Donc ça, c'est une carte géologique d'un pays, d'une région volcanique. Et ça, ça colle bien avec Mars. C'est peut-être une carte géologique de la région, d'une région martienne. On n'a pas réussi à identifier. On ne sait pas s'ils ont pris une carte géologique terrestre qu'ils ont mis là pour faire joli ou si c'est une carte géologique martienne réelle. Il y a des cartes géologiques martiennes. Donc, implicitement dans le film, ils sont dans des roches volcaniques, même s'ils montent des roches gréseuses. Vous voyez, c'est des malins quand même. Là, l'image, il faut être malin, ça passe vite ici. Je peux vous dire, il faut le voir. Alors, paysage martien qu'on voit, il y a aussi le ciel martien. Pour un astronome, ça, c'est intéressant. Donc là, le ciel martien, un peu orangé, avec un soleil très brillant. Alors, comme Mars est plus loin de la Terre, du Soleil, excusez-moi, que la Terre, à peu près 1,6 fois plus loin, le flux lumineux qu'elle reçoit du Soleil est plus faible. Et donc 1,6 au carré fois plus faible, à peu près 3 fois plus faible. Et donc un peu moins de 3 fois plus faible. Quand on voit le Soleil dans le ciel martien, on doit le voir moins brillant que le Soleil dans le ciel de la Terre. Moins brillant. Quand je le vois comme ça, moi, ça m'a paru un peu brillant. C'est normal, c'est le ciel, c'est le Soleil terrestre. C'est un peu brillant pour un Soleil martien, je trouve, mais bon. Donc la différence de puissance, on reçoit à peu près 500, un peu moins de 600 watts par mètre carré du Soleil quand on est sur Mars, contre 1360 sur Terre, hors atmosphère. Voilà une autre image du ciel martien, là encore les roches gréseuses, une autre image du ciel martien. Alors là, c'est un peu embêtant parce qu'on voit un ciel quand même qui ressemble à un ciel terrestre qui est un peu bleuté. En fait, le ciel martien, il n'est pas bleuté. Le vrai ciel martien, il est plutôt comme ça. Le vrai ciel martien, ça c'est un ciel martien retraité avec des couleurs martiennes, dans l'ambiance martienne, telle qu'on le verrait à nos yeux. Et le ciel martien, il est plutôt orange, rouge-orangé, parce qu'il y a des poussières en suspension dans l'atmosphère de Mars, des très fines poussières, et ces fines poussières sont rouges. Alors, le ciel terrestre, ce qui fait qu'il est bleu, c'est que la lumière du Soleil diffuse sur les molécules de l'atmosphère terrestre. Et que le bleu est plus diffusé que le rouge par les molécules, par des petites choses. L'air martien, il est beaucoup moins dense que l'air terrestre. Comme il est beaucoup moins dense, il y a moins de molécules pour diffuser. Le ciel serait bleu, martien lui aussi, s'il y avait un air assez dense. Mais comme il est très peu dense, s'il y avait zéro poussière dans l'atmosphère, ça serait un ciel très sombre, un bleu très sombre. Donc pas un bleu comme terrestre, mais très sombre, parce qu'il y a peu d'air. Et s'il n'y avait pas d'air du tout, comme sur la Lune par exemple, eh bien le ciel serait tout simplement noir, comme la nuit sur nous, comme la nuit sur Terre. Comme il y a des poussières, la diffusion, elle résulte essentiellement des poussières et pas de l'air martien. Et ces poussières qui sont rouges, sont des oxydes ferreux, ça diffuse plus le rouge. Et donc le ciel doit apparaître un peu plus rouge que le ciel terrestre, plutôt rouge. Donc voilà comment est le ciel martien. Il y a même ici une mosaïque qui vous montre toutes les possibilités qu'on peut avoir. Ça, ça a été pris près de la sonde Viking 1 sur toute une grande période, presque 1000 jours martiens. Là, quand il y a peu de poussière, le ciel est très sombre, un bleu très sombre. Quand il y a beaucoup de poussière et même en tempête, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est très rouge évidemment et même très sombre, mais rougeâtre. Le ciel, il est soit d'un bleu très sombre, s'il y a zéro poussière, et dès qu'il y a un petit peu de poussière, il apparaît plutôt orangé. Alors, voilà un coucher de soleil martien dans le film qui ressemble essentiellement à un coucher de soleil terrestre. Bon, assez logiquement, évidemment, ils ont pris ça sur Terre. Bon. Mais ils ont mis un soleil rouge. Pourquoi le soleil est rouge au coucher? La lumière qui vous vient directement du soleil au coucher, elle a traversé une grande épaisseur d'atmosphère. Elle a perdu beaucoup de lumière bleue diffusée. Et comme elle s'est appauvrie en lumière bleue, on voit un soleil qui est rouge, en gros, ce qui reste comme lumière. Sur Mars, c'est très différent. Les poussières diffusent le rouge. Ce qui va manquer dans la lumière du soleil, c'est le rouge. Et donc, comment va être un coucher de soleil martien? Bleu. Le coucher de soleil martien est plutôt bleuté. Et ça se voit très bien. Voilà un coucher de soleil martien qui a été pris par Curiosity en 2015. Voilà un coucher de soleil martien. On voit même l'animation du soleil qui se couche sur Mars. Regardez, le soleil, il est de plus en plus sombre quand il se couche et il est plutôt bleuté que rougeâtre. Donc, il faut retenir que sur Mars, le ciel, en gros, est rouge, pour faire simple, un rouge pas très intense, sauf quand il y a beaucoup de poussière dans l'atmosphère, est plutôt rouge et les couchers de soleil sont plutôt bleus, alors que sur Terre, c'est exactement l'inverse. Parce que ce n'est pas la même chose qui diffuse la lumière. Sur Mars, ce sont des poussières, des petites poussières rougeâtres, alors que sur Terre, ce sont les molécules atmosphériques qui sont bien plus nombreuses. Alors, dans les quelques minutes qui restent, on va discuter un peu du vaisseau Hermès, qui est un très beau vaisseau. Comme souvent en science-fiction, ils font des beaux vaisseaux quand même. Là, il est chouette, celui-là. Il est très luxueux. J'entends par là que c'est sûrement pas un aussi beau vaisseau qu'auront les futurs astronautes qui iront vers Mars. Très beau vaisseau parce qu'il a ce système-là qui est en rotation et qui permet de créer par la rotation une pesanteur artificielle due à la force centrifuge sur les bords. Alors, moi qui suis un dingue, je regarde tout ça. Je compte combien de temps il met pour faire un tour. Alors, on ne le voit pas faire un tour complet dans le film. On le voit faire à peu près un huitième de tour, c'est à peu près 5 secondes. Et donc, j'en ai lu qu'il fait un tour en 40 secondes. Ce machin fait un tour en 40 secondes. Quelle taille doit-il avoir pour avoir la gravité? Alors, quelle gravité? Martienne, terrestre? On va dire la gravité martienne pour être généreux avec eux, qui est plus faible, un tiers plus faible que la gravité terrestre. Et puis les personnages, il faut qu'ils aient une gravité. Puis bon, martien, c'est pas mal. Ils vont arriver dans quelque chose qui va être 38% exactement de la gravité terrestre. Pour avoir une gravité martienne à l'extérieur, il faut que le rayon de cette roue soit de 150 mètres. Et si c'est une gravité terrestre, 3 fois plus, 450 mètres. Une énorme roue si elle fait un tour en 40 secondes. Évidemment, un tour en 40 secondes, c'est lent, c'est majestueux, c'est joli. On regarde le film, c'est apaisant. On est dans l'espace, le vaisseau il avance lentement, la roue elle tourne lentement, c'est plaisant. Mais en 40 secondes, il faut qu'elle ait une énorme taille pour avoir ne serait-ce qu'un tiers de gravité terrestre, la gravité martienne. Est-ce qu'elle peut avoir cette énorme taille ? Là-dessus, je ne peux pas dire, je n'ai pas d'échelle. Peut-être qu'elle a 150 mètres et que c'est un vaisseau. Si ça, ça fait 150 mètres de rayon ici, alors le vaisseau, il fait des kilomètres. Hein. Vous vous rendez compte que ça commence à être un gros vaisseau. On peut trouver l'échelle, regardez. Voilà la roue avec un zoom. Et regardez où est l'échelle, elle est cachée. Elle est là. Il y a un personnage. L'image est bien faite. La gravité, elle est par ici. Parce que en tournant, la force centrifuge, elle tire le personnage par là. Et donc le bas, il est centrifuge. La force centrifuge. Donc le personnage, là, il ne fait pas 50 mètres. Hein. Le personnage, là, il fait 2 mètres au mieux. 1 mètre 70. Bon, ben, on compte combien de fois il y a ce personnage-là dans le rayon. Et la roue, elle a plutôt un rayon de l'ordre d'une vingtaine de mètres. Ce qui est déjà plus raisonnable. Ça reste quand même un engin un peu spectaculaire, mais une vingtaine de mètres. Et si elle a 20 mètres, pour avoir 0,38, il faut que ça tourne en 15 secondes. Donc là, déjà, ça fait plus tourniquer, quoi. Donc le gars, il arrive, ça tourne plein pot. Non, ça ne le fait pas. Ce n'est pas l'ambiance sereine et calme et gentille qu'on aime voir dans l'espace. Donc à chaque fois, on les voit tourner lentement, avec des petits trous raisonnables. Ils n'ont pas d'immenses structures orbitales, hein, ça reste quand même plausible. Mais en même temps, ce n'est pas la bonne vitesse ou pas la bonne taille. Enfin, ce n'est pas le bon couple vitesse-taille. Ce vaisseau Hermès, il est particulièrement fort et luxueux, parce que regardez, quand on le voit à l'arrière, il a ça. On peut se dire, bah, c'est normal, c'est une fusée. Non, c'est pas normal. Les fusées qu'on a, nous, elles poussent très fort au décollage, elles se mettent en orbite, elles poussent très fort pour aller sur la Lune, par exemple, une fois, pendant 3 minutes, et après, c'est fini. Elles sont en vol balistique, ça veut dire sans pousser jusqu'à la Lune, simplement sous l'influence de la gravité de la Terre et de la gravité du Soleil, et de la Lune, bon, du Soleil un peu, mais de la Lune et de la Terre, et puis c'est tout. En arrivant près de la Lune, il y a un autre moteur qui se met en marche pour être en orbite lunaire, comme c'est arrivé, par exemple, pour la sonde TGO. Schiaparelli ne s'est pas posé, mais TGO, l'orbiteur, il s'est mis en orbite. Il y a un réacteur qui l'a aidé, puis il a frotté sur l'atmosphère martienne aussi pour l'aider, mais il s'est mis en orbite en ralentissant, en freinant, en faisant quelque chose pour se mettre en orbite. Sinon, il continue tout droit, adieu, il passe près de la Lune. Là, ça pousse tout le temps. Dans le livre, ils nous disent la vitesse, l'accélération, c'est 2 mm par seconde au carré. Ça a l'air minable. 2 mm par seconde au carré. Chaque seconde, votre vitesse augmente de 2 mm par seconde. On se dit, mais ils se foutent de notre gueule, on ne va pas y arriver avec ça. Mais si c'est une poussée qu'on peut garder longtemps, par exemple des jours et des jours et des jours, alors on calcule qu'en 6 jours, on gagne 1 km par seconde de vitesse. En 12 jours, 2 km par seconde de vitesse. Et donc là, on commence à avoir un vaisseau vraiment intéressant. Et on peut, avec un truc comme ça, ça se calcule. Et Andy Weir, dans son bouquin, a fait tout le calcul. Et d'ailleurs, il y a eu des remakes de ça. Toute la trajectoire du vaisseau, dans le bouquin, et dans le film, ils en parlent un peu rapidement, mais dans le bouquin, elle est parfaitement réaliste si vous disposez d'un vaisseau qui est capable d'accélérer à 2 mm par seconde au carré. Ce qu'on ne sait pas faire. On n'est pas capable de faire un vaisseau qui accélère en permanence à 2 mm par seconde au carré. Parce qu'il faut éjecter du gaz à grande vitesse, un petit peu de gaz à grande vitesse, mais il faut payer une énergie considérable pendant toute cette durée de propulsion. Et donc, il faut embarquer un réacteur nucléaire à bord. Quelque chose, je dis réacteur nucléaire parce que c'est la chose qui tombe sous le sens, quelque chose qui a beaucoup d'énergie. Et quand on regarde bien le vaisseau, ah non, pas encore là, zut. Quand on regarde bien le vaisseau, là, il y a des panneaux solaires. Bon, ça, c'est joli, c'est comme la station spatiale internationale, mais il y a surtout... Regardez l'arrière du vaisseau, c'est quoi ce truc-là ? Ça, c'est pas pour faire joli, ce sont des radiateurs du réacteur nucléaire. Le réacteur nucléaire, pour le refroidir, c'est pas de l'eau, c'est pas de l'air, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air dans l'espace, c'est des blocs métalliques immenses, branchés, chauffés, et qui vont rayonner en lumière infrarouge toute l'énergie qui n'est pas utilisée pour la propulsion. Et donc là, il y a marqué réacteur nucléaire ici. Donc il faudrait un truc comme ça, si on voulait faire 2 mm par seconde au carré, il faudrait quelque chose comme ça. Et là, on peut faire des trucs absolument incroyables. Là, on peut aller sur Mars, au lieu d'y aller en 6 mois, propulsion initiale pendant 3 minutes, vol balistique, freinage à l'arrivée pour se mettre en orbite, ça prend 6 mois quand on veut optimiser le carburant. Quand on fait vraiment à l'économie, ça prend déjà 6 mois. Donc là, ils font toute cette orbite, enfin, il y a tout ce qu'il faut, ils sauvent. Hein. Tout marche très très bien, l'orbite, elle est super bien calculée, ça se passe très bien. Et pour conclure, je finis sur cette image de l'astronauticien. Manifestement, il est en pleine réflexion, là. Et parce qu'il y a un tableau, là, qui est super. Moi, j'aime bien regarder les tableaux aussi qu'on voit dans les films. Il y a plein de trucs sympas. Là, ce sont des orbites. Ça, c'est le calcul orbital. Ça va être les orbites de Oman. C'est les orbites optimum qu'on a pour aller de la Terre à Mars, par exemple. Ça, c'est les orbites de Oman, ici. Là, ici, il y a des calculs qui n'ont aucun rapport, mais qui sont justes. Là, il y a des calculs qui n'ont aucun rapport, mais qui sont justes. Là, il y a des calculs qui ont un rapport. Ça, c'est une fusée accélérée qui retombe. C'est toutes les équations de la fusée accélérée qui retombe et freinée par l'air. Donc, tout ça, c'est bien. Ici, c'est le schéma d'une tuyère avec les formules d'hydrodynamique dans une tuyère, avec le nombre de Mach. Enfin, tout ça, c'est correct. Il met science. Je sais pas pourquoi il écrit science en tableau. Le mec, il n'a pas besoin de se dire, moi, quand je suis devant mon tableau noir, j'écris pas science comme ça au milieu de rien pour dire, ouais, c'est super. Donc, moi, je fais pas ça. Il y a d'autres trucs que j'ai pas réussi à identifier, mais c'est un tableau qui est pas complètement décorrélé d'un travail d'un type qui calcule les orbites de vaisseaux. Il y a des choses qui ont à peu près aucun rapport. C'est un tableau artificiel, certainement artificiel, qui a été dessiné pour faire genre, pour dire, voilà, regardez, c'est un gars qui réfléchit là-dessus. Mais c'est pas idiot ce qu'il y a dessus. C'est pas complètement décorrélé de sa profession. Et c'est pas décorrélé non plus du problème qu'il a à résoudre. D'accord? Donc, c'est pas, c'est pas délirant. Il a une étude de travail qui est un peu désinvolte, mais c'est aussi comme ça que des fois on a des bonnes idées. Hein. Faut pas rêver. Des fois, les scientifiques sont en train de glander, on a l'impression qu'ils dorment ou qu'ils foutent rien. En fait, ils sont en train de réfléchir. Hein, ça arrive aussi. Ils sont pas que en train de dormir. Parfois, ils ont l'air un peu comme ça, perdus dans le vague, mais en fait, ils sont en train de réfléchir. Ça arrive aussi. Donc, ce tableau est plausible. Bon, il y a encore évidemment 1000 choses à faire. Là, je devais tenir une heure. J'ai fait 58 minutes. Donc c'est fini. Il n'y a pas du tout le temps pour les questions, j'en suis un peu désolé, j'avais trop de choses à dire, mais je suis là, s'il y a des questions, je vais me mettre sur le côté. On va devoir laisser la place pour la table ronde qui suit, parce que vous savez, les utopiales, c'est ça, hein. Il y a trop de trucs à faire, on ne peut pas tout faire, mais je vous remercie de votre attention, et puis je suis là pour discuter un peu avec vous, si vous avez des questions à me poser, et je suis là pendant toutes les utopiales, éventuellement, pendant les 5 jours. Merci à vous, merci de votre présence, et bonnes utopiales.